merci à toutes les deux pour ces travaux très, très impliqués. Alors, je vais essayer de poser quelques petites questions pour lancer un peu le débat. Alors, Anne, déjà, ce n'est pas vraiment des questions, d'ailleurs, c'est plutôt une remarque, puisque nous partageons non seulement une longue amitié, mais une pratique de travail avec les enfants, et que je trouve que c'est l'analyse avec les enfants, c'est quelque chose qui est particulièrement saignant. Je trouve que tu le démontres bien, à quel point c'est d'ailleurs une position très tout à fait distincte et éloignée de tout ce qui est une psychothérapie éducative comme Anna Freud le prenait, mais une exigence d'écoute qui n'est pas tellement, qui est pas affectée, enfin d'un dire qui n'est pas affectée encore complètement par le refoulement, disons. Il y a une authenticité chez les enfants à affronter le réel qui nous apprend beaucoup. Enfin, je trouve qu'on nous apprend beaucoup sur la psychanalyse, sur l'inconscient en tout cas. Alors, est-ce que j'ai des questions? C'est ça le problème. J'espère que vous allez l'avoir, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'interventions sur le travail avec les enfants. Donc, ça, c'est une belle démonstration. Alors, j'en avais une, mais tu as répondu, donc je laisse tomber. J'ai marqué oublié, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, alors, si c'est une petite question tout à fait banale, enfin, quelconque. Sur le deuxième cas, là, que tu appelles Isa. Parce que j'ai. D'abord, tu fais une citation de Lacan, je crois, aussi, ça, dans le désir, son interprétation. Tu dis à ce moment qui est. Si l'on peut dire un point de panique, oui. Le sujet a à se rapprocher justement à l'objet en tant qu'objet de désir. Mais alors,
c'est la question du regard qu'elle se rapproche.
Ah.
Elle se pose la question de qui est le regard de l'autre. En fait, elle ne se la posait pas d'emblée. Elle disait que elle se sentait marginalisée à l'école par rapport à sa maladie, mais sans pouvoir préciser en quoi. Réel la concernait finalement, en quoi ça l'affectait. C'est dans le travail qu'elle a pu dire que ce qui l'angoissait en fait, c'est de ne pas pouvoir se voir être vue, parce qu'elle s'évanouissait réellement. Une crise d'épilepsie, il y a un évanouissement. Et quand elle ressortait de la crise et qu'elle voyait ses camarades à la regarder, là elle était paniquée. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que cette citation de Lacan. J'ai trouvé que cette citation de Lacan me paraissait tout à fait appropriée à ce que disait cette jeune fille. Enfin, cette petite fille, parce qu'à l'époque, quand elle était venue me voir pour les crises d'épilepsie, elle avait 7-8 ans. Hein. Et donc, effectivement, ça correspondait tout à fait. C'est-à-dire que ce point panique, c'était le moment où elle s'évanouissait réellement. Ce n'était pas une aphanésis au sens où le dit Lacan. Hein. La disparition derrière un signifiant. C'était vraiment un évanouissement réel et elle se raccrochait au regard, quoi, hein, qui était porté sur elle par ses camarades. Et ce que le travail avec moi a permis, c'est qu'elle se construise quand même une position fantasmatique, c'est-à-dire qu'elle. Je la poussais à m'en dire un peu plus, et c'est là où elle me disait qu'elle se sentait bizarre, déchue, enfin bon, tu vois, enfin bon, quelque chose, une position subjective là. Alors qu'au départ, c'était la pure angoisse par rapport à l'épilepsie. Et j'ai trouvé ce cas intéressant pour vous parler un petit peu de comment il me semble que. On peut aussi travailler avec les affects d'angoisse liés au réel, quoi. C'est pas simplement à les prendre en compte, c'est vraiment à ce qu'on puisse retrouver quel est l'objet qui finalement va mettre le sujet dans cet état panique, quoi. Enfin, comment il va le vivre, quoi.
Oui, alors il y a cette question du regard, mais ce qui m'a presque plus accrochée, c'est la question de la voix.
Voilà, mais ça, c'est actuellement. Ça, c'est actuellement.
C'est sa question actuelle.
C'est sa question actuelle. C'est-à-dire
parce que j'ai fait oui. dans ma tête un jeu de mots de simple entre la chute et la chute. Son angoisse, c'est que, enfin, son angoisse actuelle, en tout cas, c'est qu'elle a perdu la voix, en tout cas la voix qu'elle avait.
C'est ça.
Et donc, bon, enfin, c'est peut-être un peu poussé, mais
oui,
chute.
Oui. De toute façon, c'est ce qu'elle dit, avoir perdu. Enfin, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait une tessiture de voix. Moi, je ne connais rien à l'art lyrique. Hein. C'est une jeune femme qui, maintenant, est au conservatoire de musique à Toulouse et qui fait du piano. Hein. Mais elle a la nostalgie de elle voudrait faire une carrière de chanteuse. Elle se pose la question si elle va arrêter ses études musicales ou pas. Et vraiment, elle m'a expliqué que la tessiture de la voix, ça pouvait se perdre à l'adolescence. Je pensais que c'était les garçons, uniquement il y avait les... Bon, ça m'a un peu surprise quand elle a dit ça. Hein. Mais pour elle, je pense que c'est là aussi, c'était au-delà de la réalité de la perte de cette voix, bon, parce que voilà, il en restait bien quelque chose. C'était vraiment son angoisse, c'était de ne plus avoir cette voix agalmatique un petit peu qui la faisait se particulariser aux yeux de ses camarades du conservatoire. Voilà, elle était remarquée pour ça. Voilà, donc il y avait quelque... Et alors ce qui était génial, c'est qu'elle m'a dit, mais je suis revenue vers vous parce que vous avez reconnu ma voix. Et c'est vrai que quand elle m'a appelée, de suite, je l'ai appelée par son prénom. C'est quand même une enfant que j'avais reçue pendant presque 10 ans à plusieurs reprises. Mais bon, la voix, ça authentifie quelqu'un. On n'oublie pas une voix. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas du tout oubliée. Bon. Et effectivement, là, ça l'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a dit, mais j'ai su à ce moment-là que c'était avec vous que je voulais continuer, que je voulais faire une analyse.
C'est un peu comme si
quelque chose,
là. Comme si tu avais son objet là.
Voilà.
Donc,
voilà.
Je voulais vous dire, moi je fais, je chante.
Oui.
Et effectivement, avant l'adolescence,
oui.
les enfants ont tous des voix de soprano en quelque sorte.
D'accord.
Et à l'adolescence, une voix de femme, elle peut devenir, rester soprane, mais devenir alto et même de devenir ténor. Mais elle ne change pas forcément beaucoup au niveau de son expression vocale. Moi, par exemple, vous voyez, je parle là. En fait, je suis soprane. Eh bien, quand je parle, je suis sûre que vous ne pouvez pas forcément deviner comment je chante.
On pense tout à l'heure autour.
C'est très différent. On pose sa voix, parce qu'on a plutôt une voix de tête en chantant ou une voix de poitrine, et c'est très différent. Et ça n'entraîne pas forcément un grand changement. C'est plus les femmes qui avancent en âge qui ont la voix qui baisse sur le plan de la tessiture.
Alors, autour du verre de champagne, vous pourrez nous faire une petite démonstration.
Non, c'est juste pour...
C'est
pas fantasmatique, son truc.
C'était la question de la chute
qui était
importante. C'est-à-dire, elle avait chuté d'un idéal. Moi, c'est ça, en tant qu'analyste, que j'ai entendu. Je n'y connais rien à l'art lyrique, mais j'ai bien entendu ça.
Pardon, c'est pas nécessaire pour le cas.
Voilà, par contre, ce qu'on entend dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle a chuté d'un idéal, comme quand elle était épileptique, c'était pas tellement le fait qu'elle tombe réellement, c'était qu'elle se voyait ravalée aux yeux des autres. Et c'est ça qui est resté comme, à mon avis, alors c'est là où je pose la question, est-ce que c'est pas, ça n'a pas pris une fonction de l'être, ça, pour elle? C'est-à-dire, ce n'était pas un signifiant, il me semble, bien que c'était... C'était bien sûr lié à d'autres signifiants, mais quand même, ça avait un poids de dévalorisation, de chute, qui me semblait lui donner un autre statut. Enfin bon, c'est la question que je me suis posée en écrivant ce travail. Hein. Je ne me le suis pas posée en la recevant, bien
c'est
sûr.
C'est bien, mais... parce que Anne a déjà une question, donc à laquelle elle va essayer de répondre. Et je vais quand même aussi lancer un peu la discussion sur le travail qu'a fait Claire, qui est tout à fait
conséquent.
Alors j'avais aussi des questions un peu de détails, si on peut dire. Tu parles du sujet, tout à fait au début, là, tu parles du sujet, là où c'était comme sujet, dois-je venir, là, toute la lecture que tu refais. Tu dis, il s'agit de faire advenir le sujet divisé par l'objet A. Mm-hmm. Alors, ma question, c'est la même un peu plus loin que je me suis posée. C'est, tu parles d'analysant. Non, c'est encore trop tôt. Tu parles d'analysant. Est-ce que tu étendrais ça aux analysants psychotiques? On a parlé hier au cours de Colette de l'objet A dans la poche. Alors, c'est sans doute pas tout à fait la même chose de leur sortir de la poche. Enfin, je ne sais pas comment.
De leur sortir de la poche et de les diviser.
Alors, attends, parce que ça correspond. Enfin, je peux articuler cette question avec une question que j'ai à la fin, où dans le fond, ton travail, tu as l'air de démontrer, enfin, moi, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Toute analyse est didactique. C'est-à-dire, quand j'ai lu la fin, hein, enfin, la deux ou trois dernières pages, je me suis dit, mais elle ne parle que des analysants qui passent, qui rencontrent le désir d'analyste et qui passent à l'analyste. Et après, je me suis dit, bon, dans le fond, c'est une démonstration que toute analyse peut être didactique. Donc, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Alors, par contre, ce qui est toujours une question pour moi, il se trouve que tu le reparles, c'est la question de vouloir. Mm-hmm. Comment parler de vouloir? Parce que vouloir, c'est quand même, il me semble que c'est contraire à la responsabilité subjective, d'une certaine façon. Parce qu'on ne cesse pas de recevoir des gens qui nous disent qu'ils veulent rencontrer quelqu'un, qui dit, ils veulent se débarrasser de quelqu'un qu'ils embêtent, etc. Et puis au contraire, ils y foncent, quoi. Leur désir complètement à l'opposé de ce qu'ils disent vouloir. C'est presque le début de toute analyse, c'est ça. Hein. Donc, moi, ça m'a toujours un peu chiffonné cette affaire de vouloir, y compris de vouloir savoir. Qu'est-ce qu'on peut vouloir savoir, moi, je crois. Parce que ce qu'on veut plutôt, c'est de pas savoir quand même, globalement. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est pour poser des questions. Alors, de toute façon, je vous remercie toutes deux parce que c'était un travail.
Alors, oui, par rapport à. Oui, merci. Vous m'avez dit facile. Faire advenir le sujet divisé par l'objet A dans la psychose.
Comment ça, il n'y a pas de sujet dans la psychose?
Divisé. Si, si, sujet.
Sujet divisé.
Oui.
C'était ça.
Oui, oui, tout à fait.
Peut-être vous pouvez expliquer d'abord faire advenir le sujet par l'objet A. Pour après faire la question.
Alors.
C'est un droit de réfléchir. Hein.
Oui, c'est un droit de expliquer, c'est comment, effectivement. C'est-à-dire. C'est quand même un peu le parcours de l'analyse, finalement, de. Comme dit Lacan au début où je dis, finalement, le jeu s'interroge sur ce qu'il veut au regard de son expérience morbide. Donc comment, à travers finalement les formations de l'inconscient, les symptômes, l'angoisse, l'inhibition et les rêves, etc., finalement, il y a quelque chose d'un désir qui va pouvoir s'y lire. Et où de ça, il va, enfin, j'aime pas tellement le terme assumer, mais je ne sais pas très bien quel autre terme je peux utiliser, mais il y a quelque chose là, du coup, du sujet divisé par ce qui... Par le désir qui le divise, par cet objet perdu qui est l'objet du désir, c'est cet objet perdu. Alors, effectivement, dans la psychose, je ne saurais pas comment te répondre.
Sur la question.
Oui, c'est compliqué. Ça demande réflexion, mais. Sur cette question du vouloir, ça se
pourtant, c'est, parce pourtant que c'est une question qui arrive aussi souvent, chez certains psychotiques dans les cures, de mais qu'est-ce que je veux vraiment?
C'est la question par excellence à laquelle on peut pas répondre.
Ben, oui.
En général, on veut ce qu'on ne veut pas. Donc, on désire ce qu'on ne veut pas.
Mais est-ce que c'est l'objet du désir qui le divise dans qu'est-ce que je veux vraiment, le psychotique? Je ne suis pas sûre.
Parce que dans le fond, dans le cas de la petite Isée, là, il y a une question. Il y a une question entre le regard et la voix.
Oui.
On a l'impression que le regard, c'était l'objet, non pas de son désir, mais presque de sa crainte, et la voix est l'objet cause. C'est ça qu'elle. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. Qu'est-ce que vous diriez, Colette?
Je dirais tout simplement
Défaut.
Que...
C'est qu'il ne veut pas passer le micro parce qu'on va... Oui.
Je dirais tout simplement que la voix pourrait être pas un objet. La voix est l'index du moi idéal chez elle. Elle le dit très très bien à partir de son enfance. C'est avec ça qu'elle subjuguait tout le monde, les copines, les profs, etc.
Ça marche pas, ce micro.
Et elle craint d'avoir perdu
cet
index du moi idéal. Et du coup, je me disais, quand elle est tellement touchée que vous reconnaissiez sa voix, ça m'évoquait ce que Lacan dit, l'analysant n'entre qu'en tant qu'héroménos. En tant qu'aimé, en aimé aimable, et en reconnaissant sa voix, je lui avais restitué
quelque chose de
cette position qu'elle avait dans son enfance grâce à son séquence vocale, disons. Par contre, j'ai l'impression qu'effectivement, l'objet centrale, c'est le regard. Et on retrouve dans ce qu'elle vous dit tout à la fin, elle se demande si elle va aller chanter, je ne sais pas.
Dans
où,
un pays étranger.
Dans un pays étranger où elle pourrait être regardée sans
crainte de ridicule.
Voilà.
Sans chute.
Alors, donc, voilà, sans crainte de la chute. Donc c'est vraiment. Plutôt, voilà ce que j'ai capté, en tout cas, ce serait plutôt ça. Que l'objet, effectivement. Je. Cause du désir, elle peut le dire, cause du désir et cause de l'angoisse aussi, une partie, c'est le regard.
Alors, quelle est la place de l'épilepsie dans cette affaire?
Quelle est la place de l'épilepsie? Ben, l'épilepsie, c'est le réel organique, elle n'y peut rien.
Le réel organique, il vient
mais, oui, elle a eu une réelle épilepsie.
Hein, c'est pas bien que l'épilepsie.
Oui, mais je me suis pas tellement intéressée à ça.
C'est que l'épilepsie peut avoir. Moi, je peux guérir des épilepsies parce que quelque chose, une scène signifiante, s'est mis en place.
Oui, mais
il n'y avait plus d'épilepsie.
Oui, non, mais là, Françoise, je ne me suis pas tellement intéressée
à la question.
Justement, pour des gens. Enfin, comment dire. Ça a été un signifiant de transfert pour ses parents, parce que sachant que je travaillais dans un établissement pour épileptiques, ils me l'ont adressé. Mais très vite, ce n'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est sa position subjective par rapport à ce réel organique. Et là, elle était en souffrance, parce qu'effectivement, de se sentir cet objet qui chutait, enfin, là aussi, d'un idéal, enfin, mais elle l'articulait pas comme ça. Elle se sentait ridicule, bizarre. Bon, et c'est d'avoir pu me dire ça C'est en me disant ça que j'ai reconnu sa souffrance subjective, liée à ce réel-là. Voilà. C'est en cela que ce réel-là concernait. C'est parce qu'il la faisait déchoir d'une position de prestance. Bon, alors, je vais pas raconter... Je ne voulais pas trop raconter d'éléments biographiques, parce qu'on n'est pas là pour faire une construction de
ça. Juste la question, mais voilà, cette histoire de regard, c'est une petite... Le coma, il n'y a plus personne.
Voilà, mais elle a une histoire quand même un petit peu particulière, et ce qui fait que la question de l'idéal est très importante pour elle. Très très importante, parce que c'est la petite fille d'un grand lettré japonais, enfin bon, c'est pour ça que je l'avais appelée, j'avais eu beaucoup de mal à trouver son prénom, à trouver un prénom que je n'écorche pas en vous en parlant, et la question de l'idéal familial, enfin voilà, donc elle porte ça aussi en plus, hein. Et bon...
Voilà. On va laisser d'autres questions, peut-être.
Je peux peut-être...
Oui, D'abord, je relève une jolie expression d'exposé d'Anne. L'alchimie mystérieuse entre le désir de l'analyste et le désir de l'enfant.
Oui.
Vous nous dites quelque chose de plus, peut-être, sur cette
désir
alchimie
averti,
mystérieuse.
Oui.
Alchimie mystérieuse.
Ben, je sais.
Et, non, attendez, je finis mes questions. Et puis, alors, quand même, je me disais, bon, la psychanalyse d'enfant, c'est formidable, hein. Mais quand vous dites, finalement, dans une psychanalyse d'enfant, ce qu'il faut réussir, d'abord, c'est de l'impliquer dans ce dont il souffre. Bien sûr, mais c'est. N'est-ce pas le cas de toutes les analyses?
Oui, oui.
Les enfants, c'est des analyses.
Oui, oui, tout à fait.
Mais c'est ça que tu voulais souligner.
C'est pas une spécifique. Je voulais souligner que c'était au-delà de l'enfance.
Donc, c'est des analyses.
Oui, oui.
C'est pas des domaines séparés. Bon, voilà, là-dessus, je.
Oui, je suis entièrement d'accord.
D'ailleurs, on l'entend bien dans ton intervention.
Oui, oui.
Oui, oui.
C'est justement de le séparer de la demande des parents pour qu'il rentre, lui, comme dans sa demande à lui.
Alors, oui, c'est la spécificité de l'analyse d'enfant.
Oui,
c'est qu'il faut arriver à séparer voilà. La demande de l'autre et celle du sujet.
Oui.
Mais cette opération réussie, ensuite, l'analyse, c'est
oui, tout à fait.
Ça se voit très bien, d'ailleurs, dans
tout
ce que
oui,
tu as développé, ça, ça me paraît tout à fait certain. Alors, Claire, vous avez fait un exposé vaste, hein, très construit, il y avait beaucoup de choses, et en vous écoutant, je me disais, finalement, la difficulté de notre thème de l'année, ce n'est pas la responsabilité, c'est qu'est-ce que le sujet. Hein. Parce que, au fond, Lacan, il s'est évertué, vraiment évertué, à dépsychologiser la notion du sujet, à le formaliser. Et vous avez bien évoqué, à très juste titre, la science et la vérité, parce que ces textes, quand même, il le dit une fois de plus, le sujet de la psychanalyse, c'est le sujet de la science. Et le sujet de la science n'est pas un sujet responsable. Et donc, dans le même texte, il introduit la responsabilité du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Parce que, quand on dit, et vous, à juste titre, hein, je vous suis, mais je me questionne à partir de ce que vous dites, se faire une conduite, ce qu'il fait de ce qui lui arrive. On évoque le savoir-faire. J'ai moi-même évoqué l'efficacité du sujet que vous avez cité. Bon, tout ça, c'est des expressions qui ne peuvent pas fonctionner pour le sujet formalisé complètement par la forme. Et donc, quel est le statut de ce sujet-là? On a vraiment du mal à ne pas retomber dans une psychologisation, à savoir que chacun se prend pour un sujet, qui est un pôle d'action, de vouloir, de différents trucs. Et cette notion du sujet
elle est très difficile.
Et plus difficile peut-être encore au terme de son enseignement. Parce que là, il y a la science, la vérité, l'étourdie, puis il y a la suite. Et donc je me disais ça simplement en vous écoutant, ça ressortait pour moi, qu'est-ce que c'est que ce pôle d'action que nous appelons sujet, mais qui n'est pas le sujet psychologique. Je trouve que la difficulté est là.
Oui, parce qu'en même temps, il parle effectivement de la position du sujet, oui. De notre position de sujet, nous sommes responsables, nous sommes toujours responsables.
Oui, de la position.
Oui, et aussi dans le séminaire 3, où il parle bien de le sujet, l'avènement du sujet dans le réel comme une intention. C'est vrai que c'est vraiment. Enfin, je me suis un peu cassé la tête pour arriver à faire rentrer la formalisation du sujet. Voilà, avec cette question de.
Je crois que c'est une difficulté même dans les textes de Lacan. Hein. Je ne sais pas si on peut la résoudre. Ouais. Un sujet qui a un vouloir, un sujet qui a une position. Moi, je ne suis pas gênée par le terme du vouloir. Ouais. Sauf qu'il y a du vouloir conscient et du vouloir inconscient.
Oui, c'est ça.
Alors, on peut dire préférer le terme désir.
Oui, c'est ça, c'est un peu ce que j'allais répondre, c'est-à-dire que c'est en rapport avec le désir de savoir, ce qu'on appelle le désir de savoir, qui peut être aussi ambivalent d'ailleurs. Mais je crois que le vouloir, c'est surtout par rapport à ce qu'il dit quand il parle à plusieurs reprises, notamment dans la note de la lettre aux Italiens, ne pas vouloir savoir, qui est le lot de l'humanité en général. Et que justement, pour venir occuper cette place d'analyste, il s'agit de pouvoir avoir cerné cette horreur de savoir, justement.
C'est pour ça que j'ai l'impression que tu parlais d'analyse didactique, dans le fond.
Ben, en même temps, moi j'ai un peu l'idée, peut-être à tort, hein, mais jusque-là, j'ai un peu l'idée quand même que toute analyse a un effet didactique, puisque quand même il s'agit de pouvoir retirer un certain savoir au long de sa cure.
Il a quand tiré les conséquences de son expérience.
Mais oui,
c'est ça. Oui, tirer les conséquences. Dans l'entretien là, donné à l'Institut culturel de Rome, il dit un analyste avertit des conséquences qu'il a tirées pour lui-même
de sa cure.
Qui fait que peut ensuite mener.
Alors après, il y a les décisions. Il y a les décisions du sujet subjectif qui fait qu'on va jusqu'au bout de sa cure ou pas. Parce que la fin de la cure n'étant pas programmée, il y a quand même une part de décision du sujet qui rentre en ligne de compte. Mais de toute façon, même en n'allant pas jusqu'au bout de sa cure, il y a quand même un effet d'acquis de savoir.
Sur le désir du savoir, qu'il y ait du désir ou du vouloir du savoir, c'est assuré. C'est assuré, parce que, et pas seulement dans la psychanalyse. Ça commence avec le quai savoir, mais le désir du savoir, c'est le désir du signifiant. Du signifiant, et ça, effectivement, ça l'humanité, une partie de l'humanité l'illustre. Le désir de savoir est autre chose. Le désir de savoir, c'est pas le désir du savoir. Et le désir du savoir, d'une certaine façon, c'est justement quelque chose qui permet de se rapporter au savoir en tant qu'accumulation de signifiants jusqu'à plus soif. Ça remplit les bibliothèques, et les bibliothèques sont pleines de l'horreur de savoir en même temps. On peut le dire comme ça, si on veut. C'est-à-dire le désir de savoir ce qu'il en est de l'humain, de l'humain, de ce qu'il habite, tout simplement.
De l'immonde, de
tout ça. Alors ça, c'est, je ne sais pas si ça existe même en réalité. Je n'y crois pas du tout. Je crois que par contre, il arrive qu'on se cogne à ça. Alors, on est bien obligé, quand on s'y cogne ou quand ça vous tombe dessus, on en prend une sorte d'aperception, une sorte de connaissance, enfin, je ne sais pas comment quel mot employer. On acquiert un insight là-dessus. Mais ça ne fait pas un désir de savoir. De savoir cela, je crois que c'est très... On se défend. On s'en défend par tous les moyens. C'est mon idée. Hein.
On a encore une minute pour une autre. Moi, j'ai une autre question. Enfin, je la pose quand même. Est-ce que l'usage du terme par l'être, qui arrive en 74, si je me souviens bien, n'est pas une sorte de façon de se passer du terme de sujet?
Ben non, puisque le terme de par l'être, ça c'est l'inconscient. C'est un autre nom de l'inconscient. Ouais. C'est pas un autre nom de l'être parlant. C'est un autre de nom de l'inconscient. Il rebaptise l'inconscient du terme de parler.
Ah, oui, je sais, mais pour moi, je ne sais pas pourquoi.
Oh, mais il n'y a pas pour toi. On croit qu'il a rebaptisé lui-même du terme de parler. Il faut bien lire 3 fois, 10 fois le texte pour voir que ce qu'il appelle parler, c'est l'inconscient freudien. Et il dit même « bouge-toi de là, je m'y mette ».
Ah oui, c'est
pour dire que vraiment, pour désigner bien ce qui est rebaptisé.
Alors, une question, je ne sais pas où est le... Une question, on a deux. Allez, encore une question.
Moi, j'avais une petite question.
Tiens. Voilà.
À propos de la... Parce qu'il me semble que dans les deux exemples que tu donnes, ces deux jeunes, en fait, de leur tranche d'analyse d'enfants, ils disent qu'ils ont trouvé une solution, si j'ai bien entendu.
C'est surtout le premier.
Surtout le premier.
C'est son terme à lui, hein, accepter la cause comme solution.
Et la deuxième, parce qu'ils viennent avec leur adulte, enfin jeune adulte, ils viennent avec une demande de savoir...
D'analyse.
Oui. Et t'avais pas, il me semble que tu avais dit savoir, non ?
Non, demande d'accord. D'analyse. Le premier m'a demandé l'adresse d'un analyste dans la ville où il faisait ses études, donc je ne l'ai pas, d'analyse. Mais la seconde a demandé à faire une analyse avec moi.
D'accord.
Après quelques années d'interruption.
Ce que je m'étais demandé en écoutant ces deux jeunes à travers toi, s'il n'y avait pas une différence par rapport au savoir dans l'entrée de l'enfant et l'entrée de l'adulte dans l'analyse. Quelque chose qui bougeait quand même, qui n'était pas tout à fait.
Tout à fait.
Qui n'avait pas le même statut pour ces deux moments.
Oui, mais parce que effectivement, quand ils sont venus enfants, ce n'était pas leur demande au départ, c'était la demande de leurs parents. Et l'une, ça concernait vraiment le réel de sa maladie organique, et l'autre, c'était des symptômes. Il y avait plusieurs symptômes gênants d'encoprésie, d'angoisse aussi. Enfin, voilà. Donc, ils ont oublié, mais moi aussi. Enfin, franchement, j'ai oublié. Ce qui m'en reste, à partir du moment où ils sont revenus me voir, me faire une demande d'analyse adulte, enfin, chaque fois que je les ai revus, bien sûr, il y avait quelque chose du travail. Mais c'est pour ça que je dis que le savoir circulait en tiers entre moi et eux. C'est vraiment tout à fait comme dit Lacan. Le savoir circule en tiers entre l'analyste et l'analysant. Et c'est ça qui était resté et qui se retrouvait à chaque tranche, mais à mon insu et au leur aussi. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'était passé à l'inconscient, quoi. Et j'ai trouvé intéressant de vous parler de ces deux cas, parce que justement, étant donné que je les ai revus, mais que
dans ce qu'il est resté de ce qui s'était oublié, ils ont pu témoigner de ça, de cette élaboration qui s'était faite. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir. Hein. Mais moi, j'ai oublié.
On peut continuer à parler autour d'un verre et avec un peu de chant éventuellement. La prochaine séance qui sera du séminaire école, c'est le 22 mars. Avec Michael Pierre, Canou et Sylvia Scopa.
Oui.